שיעשה מי השם עליכם תחיו לאורך ימים טובים משנים לימים. והוא פרופוז כלכי חידושים שיעור למגילת אסתר מקובל האלוקי רבנו שמשון דאוסטרופולי. Alors dans son livre, mais Nitutse Shimshon, alors il ramène quelques Hidushim que nous allons voir immédiatement. Dans la Megillah, il est dit qu'après que Aman ait décrété tout ce qu'il a décrété, qu'il s'est mis en accord avec le roi, et il écrit les lettres, etc., pour que le décret soit appliqué, il est dit « Mordechai yada et kol asher na'asa ». Mordechai avait su tout ce qui s'était tramé, tout ce qui s'était fait. Rashi dit, comment il a su? Rashi dit, Piresh Rashi Baal HaLomot Igidlo. C'est dans le rêve, Baal HaLomot, il a rêvé, et à travers le rêve, on lui a dévoilé cela. Nous dit Rabbi Shimshon d'Ostropoli, que c'est étonnant. Pourquoi Rashi, il va dire que c'est dans le rêve? Dilma nevoa Baalo. Peut-être que c'était une vraie prophétie. Bon, ben ailleurs, il est dit que c'est Eliaou. Il y a un message qui dit que c'est Eliaou qui a dévoilé cela à Mordechai. Mais Tiret, et répond Rabbi Shimshon, qu'il y a marqué dans le Midrash, au Mordechai, yada et kol asher na'asa. Et kol asherna, tout ce qui s'était fait, le mot kol, il est en plus. A priori, il était suffisant de dire, on m'en déchaïada asherna asa. Il savait ce qui s'était tramé. Gamara midrash, kitevad kol, le mot kol, nous dit le midrash, ça fait allusion que Mordechai, il savait, il a vu deux choses. Il a vu que le coup que portait Aman sur les Juifs, donc la Gzera. Et il a vu la guérison de cette Gzera, la solution. Ra'a et Amaka, ve'a refoa. Que quoi? Que c'est lui-même, lui il a voulu détruire les Juifs, et c'est lui qui sera pendu et qui sera détruit, et lui, ses enfants et toute sa clique. Aval caché. Cependant, il y a une difficulté. Quand Mordechai il a su ça, il a vu donc la solution. Alors pourquoi il a décrété des jours de jeûne, etc., et des prières, etc. Pourquoi ça? On n'a pas besoin de jeûner, voilà, c'est décrété dans le ciel. On m'a dévoilé dans le ciel que Aman il va rater son coup et il sera lui pendu. Là, sur ça, et c'est à ce sujet que Rashi dit, c'est dans le rêve que ça lui a été dévoilé. Et Chacham disent, que en halom belot dvarim betelim, il n'y a pas de rêve sans quelque chose de faux. Dvarim betelim, tous les rêves, il peut y avoir quelque chose de vrai dans le rêve, une vision réelle, mais elle est toujours entachée de quelque chose qui pourrait ne pas être juste. Donc Mordechai, il avait un doute. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé que ce qu'il y a de vrai dans le rêve, c'est la Gezera de Haman. Mais de voir Aman qui lui-même il va être pendu, il a dit c'est peut-être ça de Dvarim Betelim. Donc il n'a pas voulu s'appuyer sur l'entière vision, la vision entière de son rêve. Il a fait la Humra, il a dit la partie qui est mauvaise pour nous, donc elle peut être vraie. Donc ça peut, c'est sûrement vrai. Alors donc, maintenant la partie bonne, peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est Kohat Atuma, des fois dans le rêve, les forces, les malachim raïm, ils interviennent, ils te font croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc c'est ça, ils entachent la vision et la vision n'est pas claire. Alors Mordechai, il a fait la humra, il a dit moi je peux pas m'appuyer sur la vision positive, je sais pas si c'est réel. Alors c'est pour ça qu'il a décrété pour annuler la Gezera, il a vu qu'il y a une Gezera, alors nous on sait comment on annule les Gezerot. Comment? On fait des prières, on fait tchouva, on fait des tsomot, et on s'installe dans un processus de repentir parfait pour obtenir l'annulation de la Gezera. C'est ce hidouche-là que veut dire Rashi, Baal HaLomot Igidlo. C'est pour cette raison qu'il a institué les tzomot, les tzahaka, la tzahaka, le silice, la tchouva, afin que d'annuler la xéra de Haman. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Chidouche suivant de Rabbeinu Shimshon, Meostropoli. Alors Esther, elle dit, quand Mordechai, il invite Esther, il lui dit, tu vas aller voir le roi. Elle lui dit, mais comment je vais aller voir le roi, voilà que je n'ai pas été invité à me présenter devant le roi depuis un mois. Elle dit, si celui qui se présente devant le roi sans y avoir été invité, il risque sa vie. Alors elle lui dit, Mordechai, il met la pression. Elle lui dit, comment tu veux te sauver toute seule? Tu crois que tu es à l'abri dans la maison du roi? Va savoir, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, la délivrance, le salut peuvent provenir d'ailleurs. Et toi, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Alors qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, voilà, l'air que nous, cette kolayodim, rassemble tous les juifs et jeûnez pendant 3 jours. C'était les jours de Pessah, 3 jours. C'était le 14, le 15 et le 16 Nissan. Ils ont jeûné 3 jours. Et moi, il dit, et moi, et mes suivantes, on va aussi jeûner. Après, j'irai me présenter au roi en dehors des convenances. Et je risque, c'est à cause de Bochou, il rappelle. Mais cacher avati, ce que je perds, je perdrai. Yesh le farech, nous dit Rabbi Shimshon, Yesh le farech, diné, Micheno, chel, voilà, il y a, que celui qui ne mange pas pendant 3 jours, il ne met rien dans sa bouche, alors qu'il a une mauvaise odeur dans la bouche. Alors il a réachapé l'odeur de sa bouche, son haleine, elle n'est pas bonne. Et ce n'est pas d'air, eret, d'aller se de présenter, de parler à quelqu'un. De parler, alors que tu parles à quelqu'un, c'est l'odeur, elle est forte, ce n'est pas joli, et à plus forte raison de s'adresser au roi. Bechen. Alors il dit, il a beau berken et la meler. Beno derer eres la beau ken et la meler. C'est pas comme ça qu'on se présente devant le roi. Ubchen, avo Esther a dit, ubchen avo et la meler. Ubchen, valeur numérique 72. Bien, gimel peramid kad, shaot. 72, ça fait 3 fois 24. Ubechloshet yemeatanit. Az qui a dans les 3 jours de jeûne. Mais Az avoy la melech al asher lo chadat. Donc c'est ça, elle fait allusion à cela quand elle dit ubechen avoy la melech asher lo chadat. Ubechen ça fait 78, ça fait 3 fois 24. Donc c'est ça le bechen c'est 52. Non c'est ubechen c'est 72. Et le Vav, c'est 78. Donc, ça fait 3 fois 24. 3 fois 24, ça fait 72. Asher lo chadat. Après, il y a marqué, va yoshet, ameler, l'Esther et charbit azav, asher beado. Quand Esther s'est présentée, bahatsar, devant la maison du roi, alors devant la salle du trône, alors qu'il a vu à l'extérieur, il lui a tendu le sceptre. Va yoshet ameler l'Esther et charbit azav. Asher biado. Va tikra v'Esther va tiga b'rosh asharbit. Elle s'est approchée. Esther, elle a touché le roche asharbit. L'extrémité, le début, l'extrémité du sceptre. Alors ici, il est caché. Il dit, Rabbi Shimshon, qui a un coucha ici. Il est caché. Alors, yadou, amamar agmara. Shasharbit aya bet amot. La Gemara, elle dit dans Megillah que le sceptre, il avait 2 coudées. Omipne kevoda chez Esther. Et pour l'honneur d'Esther, ce sceptre-là, il s'est rallongé jusqu'à 60 coudées. Et il y en a qui disent jusqu'à 200 coudées. Donc il y avait une distance de 60 coudées d'après l'un, et il y avait une distance de 200 coudées d'après l'autre. Afin que Esther, elle se donne pas la peine de marcher autant pour toucher la tête au début du sceptre. Nimsa, Shacharbit et Amagia Deser, ça veut dire que le charbit, le sceptre, il a été depuis l'endroit où il se trouvait le roi, jusqu'à l'endroit où se trouvait Esther, il s'est rallongé. Donc toute la distance qu'il y a entre quand le roi, il a levé les yeux, il a vu Esther qui était debout en Médé, elle était dans la cour intérieure qui donne sur la salle du trône. Donc il la voyait. Donc il y a toute une distance. Alors 60 coudées, disons que c'est 60 coudées. ou 200 d'après l'autre. Donc elle avait, si le sept il s'est agrandi, il s'est rallongé, elle n'avait pas besoin de marcher. Alors pourquoi il est dit que Esther elle s'est rapprochée pour toucher la tête du l'extrémité du sceptre. Pourquoi il est dit Vatikra Esther Vatiga Berosh Hasharbit. Au mashma, ça veut dire qu'elle avait besoin de s'approcher. Alors lo haya lo lechtov rak Vatiga Berosh Hasharbit. Si c'est comme dit la Gemara que le sceptre s'est rallongé, il fallait dire elle a touché le sceptre, elle n'a pas besoin de s'approcher. Et Rabbeinu Shimshon d'Astropoli, Alav Shalom, il a dit, Dineita Bekitve Rabbeinu Ahari. Il est rapporté dans les écrits de Rabbeinu Ahari, Alav Shalom. Ine Anochi Make, il est dit, dans le Shemot, dans les Makot d'Égypte, il est dit, Ine Anochi Make, Bamate Asher Beadi Alamaim. Asher Bayor. Il dit, Moshe, il dit, voilà, je vais frapper avec le bâton qui est entre mes mains, l'eau du Nil. Alors il dit, pourquoi il dit avec le bâton qui est entre mes mains? Le bâton, il va être quoi? Il va être posé, pour frapper, il est obligé de le prendre dans ses mains. Alors pourquoi il est marqué Asher Beyadi? C'est en plus. Alors, Milo Yada, Sheamate, Aye Beyado, Keshiavo, Keshiaketa, alors, est-ce qu'il peut frapper le Nil avec le bâton si le bâton, il n'est pas dans sa main? Et dans la paracha de Béchalar, il y a marqué, Vayomer Hashem el Moshe, Avor l'ifne Aram, il a dit, passe devant le peuple, mets-toi devant, Umatecha et ton bâton, Asher ikita bo et ayor kar beadecha. Et il lui a dit, prends dans ta main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Vealachta et tu t'avanceras. Ineni omed lefan echasham ala tsur. Voilà, je me tiendrai devant toi, là-bas, sur le rocher. Behorev, vekita batsur, veatsur mimenu maim. Et tu frapperas le rocher, et le rocher donnera ses eaux. Et à ce moment-là, il y a marqué, Beshata, hein, le peuple pourra s'abreuver. Et Moshe, il a fait ainsi. Vaya asken Moshe, l'aîné zikne Israël. Gamkan, ici aussi, il lui dit, Kahet beadecha, prends le bâton dans ta main. Vaday qui va prendre dans sa main, c'est en plus. Pourquoi il est nécessaire de marquer, prends le bâton dans ta main. Il dit, frappe le rocher. Donc, je sais qu'il va le prendre dans sa main. Aval Yadoua nous dit, le Hari, Yadoua Shamate, Aya Nirsham, Bo Shem Avaya. Donc, dans le Maté, en vérité, il y avait le Shem Avaya avec toutes sortes de compositions du Shem Avaya. Baruch Hu, avec lequel Moshe, chaque fois qu'il tapait, il faisait un miracle. Il changeait la nature. Mais Zeyadoua, qui Shem Shel Avaya, le nom Avaya, Yotke Vavke. Si, il y a plusieurs compositions. Donc, il y a au moins les 12 compositions qui correspondent aux 12 mois de l'année. Donc, quand il est dans l'ordre, Yotke Vavke, alors c'est pour elle Hesed. Ça agit dans la bonté totale. Et s'il est à l'envers, si par exemple les lettres féminines, elles précèdent les lettres masculines, alors ça c'est la rigueur qui s'abat. Si le He, il est avant le Yod, et le He, il est avant le Vav, alors c'est le côté du rigueur qui va s'appliquer. Ou les Ferouadim, comme il y a marqué, Mi'ouzé ve'ezéou, dans la Megillah il y a marqué, Mi'ouzé ve'ezéou, alors Mi'ouzé ve'ezéou, quand c'est positif, là-bas, il y a marqué « mi » c'est « yod »,« hu »,« mi hu ze »,« ve ze hu », alors c'est un nom dans l'ordre « yod ke bavke ». Mais quand il est dit, Raman, il a dit « ve kol ze eneno shoveli », alors là-bas, il y a marqué « ve kol ze »,« ze », les dernières lettres, c'est « he », après « eneno », c'est « vav »,« shove », c'est « he », Li c'est Yod. Là, le Shem Avaya, il est à l'envers. Et nous dit Rabbeinu Ahari, là-bas, c'est Midat Hadin. Lui, il a voulu dire Midat Hadin sur Israël et s'est abattu sur lui. Nimsa, il en ressort. Kshaya Tsarir Moshe, quand Moshe, il avait besoin de frapper le rocher, le fleuve, il avait besoin donc de faire d'abattre la rigueur sur l'Égypte. Aya Tsarir la fort est à Maté. Donc pour ça, il fallait renverser le Maté. Le prendre le Maté à l'envers. Afin que le Shem Avaya, quand il va venir frapper le Nil, il sera à l'envers. C'est le « et » avant le « yod » et le « et » avant le « vav » avant le « yod ». Qui a dit « tsarir kan » parce qu'ici, c'est l'application de la rigueur qui doit se faire. Donc là, « foret ayor » les dames. Que quoi ? Que le « yor » c'est le Nil, c'est l'eau, c'est la vie, et il va devenir du sang. Donc la rigueur. Et alors, mais dans le rocher, quand il veut faire sortir de l'eau, Ayatzarir Rahamim, là-bas, il fallait appliquer l'amidata Rahamim, la bonté. L'iten l'Israël Maïm, afin que l'eau qui va être donnée à Israël soit avec abondance. Aya, il fallait qu'il prenne le bâton du bon côté. Afin que le Shema Vaya, quand il va frapper le rocher, ce soit le Shema Vaya Yotke Vavke, dans cet ordre-là, puisqu'il va produire la miséricorde. Benavi Lavar Bourio. Alors, de quel côté du bâton Moshe il a frappé le Nil? En vérité, c'est avec Behelek Amate Asher Beado. Quand il frappe, quand il veut produire, alors d'une extrémité, il y a le Shema Baya dans l'ordre, donc c'est Hesed. Mais l'autre extrémité, c'est à l'envers. Donc quand il tape le rocher, alors il doit prendre le bâton du bon côté. C'est-à-dire qu'il tape le bâton selon comment il le tient généralement en sa main. C'est ça ce qui a marqué. Behelek Asher Beado, Kar Beadecha. Il lui a dit, prends le bâton dans ta main. Mais la Zéama Moshe, il est anochi marqué Bamate Asher Beadi. Voilà, je vais frapper avec le bâton qui est dans ma main. Récemment, Behelek Asher Beadi, je frappe avec quoi? Dans le Nil, il dit, je vais frapper le Nil avec la partie du bâton qui est en général dans ma main. Parce que pour frapper le Nil, il faut renverser. Aval, mais quand il s'agit du rocher, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'il a marqué Blazé Amar. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit, ou Matera Asherikita Bo et Tayor, le bâton avec ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, prends dans ta main. Donc il y a la partie avec laquelle tu as frappé le Nil, tu saisis dans la main. Donc tu frappes le rocher avec l'autre extrémité. Ça, c'est ce que dit Rabbeinu Ari au sujet du bâton de Moshe. Et iné. Alors maintenant, ici, revenons à notre sujet du charbit. Le charbit. Le sceptre de Ahashverosh. Alors, Kadou Vayosh et Amel Erles et Recharbit Azam Asher Beado. Là aussi, il a marqué. Le roi Assuérus, il a tendu en direction de Esther, le sceptre qui est dans sa main. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi, Teva, les mots, le sceptre qui est dans sa main? Ça, en plus, ça sert à rien. Il fallait pas marquer ça. Kibevada, ben, évidemment que le sceptre, il est dans sa main. Avaliné, voilà que Ahashverosh, et mi shiretsono aya la hayoto aya moshit lo et asharbit azav. Donc, dans quel cas Assuérus, il tendait le sceptre vers celui qui se présente à lui, quand il veut lui donner la vie? Aval Esther, mais Esther a été hachouva meod beinav. Esther, elle était très importante à ses yeux à ce moment-là. Mais aya moshit la qu'est derrière, donc il va pas lui tendre le sceptre de la même manière qu'il tend à tous les autres. Rakayam a fait un charbit, il renversait le charbit. Et il lui a tendu à elle le côté qui lui tient dans sa main. Ve'aïnou, elle est cachère tamid beyado, la partie que lui il saisit, la partie la plus importante qu'il tend, la partie qui lui appartient, qui lui revient. Ah, ve'laze amar charbit azav asher beyado. C'est ça ce qu'il lui a dit. Va'yoshet ameler et charbit azav. Asher Beado, donc c'est le côté qui était que généralement il attrape, c'est ça qu'il a tendu, il a passé à Esther. Mais Esther, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a compris cela. Alors elle a dit, si le roi il me fait ce kavod là, moi je vais lui montrer encore plus du kavod. Il m'a mêlé aussi le kavod le shit halek Asher Beado. Ani lo tig lo ega, moi je toucherai pas la partie que lui il touche. Parce que ça veut dire que je touche la partie qui appartient au roi. Donc c'est comme si qu'il manque de kavod envers le roi. Je vais aller toucher comme tout le monde. Et là, c'est ça ce qui a marqué. Elle s'est rapprochée. Donc elle a eu, il a fallu qu'elle aille à l'autre extrémité. Donc elle s'est rapprochée totalement du roi à l'arrivée. Et là où lui a attrapé à ce moment-là, elle a touché. כי הוא זלזול במלכות, אלא אתה תקרא ואסתר ותיגע בראש השרביט, אלא תושה לאקסטרמיטה, en général c'est l'extrémité qui est tendue vers le visiteur. Et là, elle était où? Elle était cette extrémité-là, dans la main de Ahasuerus. Alors c'est pour ça qu'elle a dû faire tout, parcourir toute la distance pour toucher l'extrémité habituelle du charbit. Mais avoir, et c'est pour ça qu'elle a eu la nécessité de s'approcher. S'approcher jusqu'où? Jusqu'à la tête, l'extrémité du cerveau. Basé, mais donc, c'est pour ça qu'il y a marqué, Esther s'est approchée. Et à ce moment-là seulement, elle a touché l'extrémité qui était en vérité là, dans la main de Assuérus. On poursuit encore un hédouche. Nous dit Rabbi Shimshon Ostropoli que lorsque Haman il sort de chez le roi l'a grandi, l'a nommé, il l'a placé au plus haut, qu'il est avec Esther, etc. au banquet, il sort et il voit Mordechai qui ne bouge pas de sa place, et il dit l'expression suivante, de kolze eneno shoveili, tout ça ne vaut rien à mes yeux. Tant que je vois Mordechai là, c'est-à-dire que c'est la rage totale, ça ne me dit plus rien. Ce kavod-là, je n'arrive pas à apprécier les honneurs qu'on me fait. Et il dit, mais kolze neno shoveli. Pourquoi il dit, mais kolze? C'est en plus, il était suffisant de dire, veneno shoveli. Le kavod duquel on vient de parler, ça n'est rien à mes yeux. Pourquoi il dit kolze? Zotzelomar, c'est-à-dire, quand la kavod, toute la gloire, la puissance, les honneurs que j'ai ne valent rien, tant que Mordechai est vivant. Alors, kolze, il pose problème. Nous dire à Shimshon d'Ostropoli, on sait que Mordechai et Esther, ça fait valeur numérique 26. Comment? Quand on prend les unités du mot, on prend Heshbon, ce qu'on appelle Heshbon Katan. Mordechai et Esther, Begmataria, Shema, Vaya, Baruchu. Mordechai, c'est même, c'est 4. Resh, c'est 2. Dalet, ça fait 6. Dalet, c'est Dalet, ça fait 4, ça fait 10. Kaf, c'est 2. Ça fait 12. Et Yod, c'est 1. Ça fait 13. Prenons Esther. Esther, Aleph, c'est Aleph. Sa mère, c'est 6. Donc ça fait 7. Tav, c'est 4. Ça fait 7 et 4, 11. Et Resh, c'est 2. Ça fait 13. Donc il y avait 13 et 13. Mordechai, ça vaut 13, Beheshbon Katan. Et Esther, ça vaut 13, Beheshbon Katan. À eux deux, ils forment le nom de Shem Havaya Baruchu. Et Haman. Maintenant, prenons Haman et Zeresh. Haman, c'est He, ça fait 5. Même c'est 4, ça fait 9. Et Nun, c'est 5, 9. Et 5, ça fait 14. Zeresh, Zain, c'est 7. Resh, c'est 2, ça fait 9. Et Shin, c'est 3. 9 et 3, ça fait 12. Donc on a 14 et 12. Alors, comment? Alors, le 26, donc Mordechai et Esther, ils sont puissants. Pourquoi? Parce qu'eux deux, ils s'associent pour former le nom de Dieu. Ah, mais on peut objecter que Haman aussi, avec sa femme, ils font 26. Aval, il y a une différence. Parce que eux, dans l'union de Mordechai et Esther, ça fait 13 et 13. Ça s'associe parfaitement. Mais Haman, lui, il vaut 14. Qui Haman, Bifnas, ou Mispar Katan Yad, ça fait 14. Mais Zeresh, ça vaut 12. Et les Mkoubalim, ils disent que si Béhemet, Haman et Zeresh, ils avaient aussi 13-13, alors comme Mordechai et Esther, en vérité, leur force aurait été tellement puissante qu'on n'aurait pas pu les annuler. Donc personne n'aurait pu faire tomber Haman et Zeresh et sa femme de leur grandeur. Et c'est ce qui est marqué. Et tout ça, ce zé là, ça fait 12. Il dit, on a un mauvais. Tout ça, c'est pas bon pour moi. Pourquoi c'est pas bon? Qu'est-ce que c'est ce zé là? C'est le 12. Le fait que moi, je sois 14 et ma femme, elle est 12. C'est ça qui fait que moi, je tombe. Mais la zé amaraman, mais col zé, non le chavalier, à mispar katam chez le zé, chez le zé. la valeur, le fait qu'il y a un décalage, il n'y a pas une union parfaite dans l'assemblage des valeurs du nom de Dieu entre Aman et Zeresh, c'est ça qui a fait qu'ils sont tombés. Alors que, et là, il y a un secret profond qui est marqué, c'est que la constitution du nom de Dieu, c'est 13, et 13, ça fait 26, Shem, Avaya, Baruch Hu, elle se fait quand il y a l'union, quand il y a l'équilibre entre les éléments. Donc il y a un équilibre parfait, une concorde, une harmonie. Le Mordechai et Esther, qui sont Zahar et Nekeva, ils sont dans l'harmonie parfaite, et une complémentarité absolue. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. Tandis que chez Haman, Zeresh, lui, comme il est au-dessus, il a l'orgueil et il a la suffisance. Donc même sa femme, elle est réduite. Il prend le dessus sur sa femme. Le nom de Dieu, il peut pas être composé quand c'est un qui domine l'autre. Il faut qu'il y ait une complémentarité parfaite. Tous les deux, ils sont au même niveau. Chacun amène la moitié de la composition de la Shérina sur terre. Et c'est ça qui a fait que Mordechai et Esther, en s'associant, ils ont fait tomber justement la xéra de Haman. Et Haman lui-même s'en rend compte quand il dit « Bekol zene no shoveli ». Il est à noter que la Megillah a été écrite « Beruach HaKodesh ». Donc il y a dans chaque élément de la Megillah, il y a un détail et une allusion au Shemot HaKodesh. Dieu, il est présent dans toute la Megillah, comme il dit Rabbeinu Ari. Le nom de Dieu apparaît à de très nombreuses reprises. Chaque fois, avec les Rachet Tevot, les Safet Tevot, il y a des Shemot de partout, pour montrer que c'est lui qui est là, et qui réalise le miracle, qui ne laisse pas Israël perdu. Et Haman lui-même s'en est aperçu. Encore un chidouche. Dans le Sefer, Yalkut Yashar, il ramène au nom du Rokeach. Katab Shem Rabbeinu, il amène au nom de Rabbeinu Shimshon. Shaman Bezeresh, Emma Besitra Acha. Haman et Zeresh, sa femme, ils sont du côté, l'autre côté, Koha Klipa. Mitzad Sammechmem Venorve. Donc il y a deux forces de la Touma qui sont Sammechmem Aleph Lamed, c'est le malar de la Touma qui aveugle, le Sitra Acha. Le Yetzerara, le Satan, les roulés. Et lui, il a aussi une femme, une féminité, qui s'appelle la Medyotav. Donc c'est ces deux facettes, de la même manière que Adam et Hava, Adam il est la Kedusha et Hava il est Zachar de Kedusha, et Hava, elle le complète, Abraham et Sarah, etc., dans le couple. Ish v'isha shezachu shechina b'nehem, donc l'homme et la femme, ils se complètent, et ils amènent la Kedusha sur terre. Yodke, Vavke se constituent dans l'union entre l'homme et sa femme. La même chose dans la Touma. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Aman, b'mispar katan, ça fait comme nous avons vu, Aman, c'est mispar katan, c'est 14. Et on prend le mispar katan, de Samer même, Aleph Lamed, Samer c'est 4, et même c'est, Samer c'est 6, et même c'est 4, ça fait 10. Aleph c'est quoi? Aleph c'est 1, ça fait 11. Et Lamed c'est quoi? C'est 3, ça fait 14. Zeresh, c'est, on a dit, ça fait 12. Alors regarde comment on écrit la Medyota. Lamed c'est 3. Et Yod, c'est 1, ça fait 4. Et encore une fois 4, ça fait 8. 8 et Tav c'est 4. Ça fait 12. Donc on voit pertinemment qu'il y a un décalage, que Haman et Zeresh Ishton, ils correspondent, Mamash Okohot Atuma, qui sont là au moment de leur apogée, c'est la dormita, le sommeil de la Kedusha, comme il est dit au moment de la création de l'homme. Alors l'homme, il était do par Tsoufim, il était homme et femme, une seule créature. D'un côté, c'était une face masculine, de l'autre côté, c'était une face féminine. Après, il l'a endormi pour séparer la femme. Donc l'endormissement, c'est là où les kohot akdusha, elles sont au plus faible, puisque pour dormir, alors que Akadosh il retire les énergies le ruach, la neshama, et les retirer. Donc il n'a pas les énergies d'intelligence, de compréhension, de savoir. Donc c'est le sommeil. C'est ce que Haman lui-même, il a dit, leur Dieu, il s'est endormi. Pourquoi? Parce que c'est le dormita, c'est la période de Galout où les flux, ils sont juste sous, on est sous perfusion. Et quand le réveil se produit, alors à ce moment-là, la Touma, elle tombe. Pourquoi le réveil se produit? Parce que les énergies, ils ont été rétablies. Le réveil de Mordechai, le réveil de Esther, le réveil de Am Israël, alors tout d'un coup, ils se sont réveillés. Au début, ils ont dit, Yeshno, ils se sont endormis, et là, ils se sont réveillés. Donc le Sitra Acha, qui est Haman, Haman, c'est pas un Ben Adam. Haman, c'est un homme, mais d'où il tire ses forces puissantes pour lutter contre elle? Les ennemis d'Israël, ils n'ont pas une force propre. Ils tirent la force des malachim, de Touma. Donc c'est quand est-ce que les malachim, les puissances de Touma, elles sont fortes? Quand nous on est faibles, quand nous on se laisse aller, quand nous on s'endort dans l'accomplissement de Torah en mitzvot. Et en particulier, il est à noter, et ça c'est un enseignement qu'on doit se rabâcher continuellement, que quand on dort, yashnu mina mitzvot, quand il est dit, ils se sont endormis, leur Dieu, il s'est endormi. Elohim shelelu yashan, il lui a dit. Ça, c'est un drash de Chazal. Et il y a autre chose, il dit, ils se sont eux-mêmes endormis dans les mitzvot. Ça veut dire quoi, ils se sont endormis dans les mitzvot? Ils faisaient plus la Torah et les mitzvot. Ils ont abandonné, alors c'est pas possible. Et il y a bien, même si les juifs, ils se laissent aller, mais il restera toujours quelques-uns qui vont accomplir Torah et mitzvot. Je peux pas dire tous les juifs, ils ont abandonné. Ils nous disent, Chachamim, ce que nous comprenons de là, c'est qu'ils ont accompli la Torah et les mitzvot dans une routine. C'est devenu une routine. Il n'y avait plus de ferveur, plus de passion, plus d'enthousiasme dans l'accomplissement, plus d'amour, d'ardeur dans l'accomplissement des mitzvot. Alors, Haman, il était sûr de gagner parce que l'ardeur, c'est ça, c'est le feu de la mitzvah qui tue le feu du Yetzerara. Le feu des clipotes, c'est ça qui tue. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? La Yehudi, Maïta, Ora, Bessasan, Vikar. Les Chachamim disent, tout d'un coup, ils ont commencé à faire la mitzvah de Tfilin avec ferveur, la Torah avec lumière, etc. Et pourquoi avant ils ne faisaient pas? Non, ils ont faisaient la même Torah, mais tout d'un coup, elle a pris un autre aspect. Ils lui ont insufflé la ferveur, la passion, l'enthousiasme, l'ardeur de Kiyum HaMitzvot, et c'est ça l'enseignement de Purim qui a fait que Haman et Zeresh ils sont tombés, que Samer Mem et Lamed Yud, ils sont tombés. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen.